Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Mais le métier de mon père, on dit directeur de photographie ou chef opérateur.
Un cinématographe, c'est écrire en mouvement et écrire en lumière, avec l'énergie.
Il me faut un volet là-bas. Appelez dessus, Jim.
Mon idée n'était pas de faire un film sur lui, mais avec lui.
Et c'est pas que tu me filmes pas, là.
Tentative d'évasion première. Moi, j'aimerais bien que tu bouges quand même d'ici, mais où? T'as pas forcément envie d'aller à la mer?
Si.
Si. On pourrait se donner un objectif d'aller jusqu'à la mer.
Oui.
Ta gueule.
Quand j'étais gamin, mon père disait souvent « Arrête de faire du cinéma, j'en fais toute la journée. »
Deux, trois.
Voilà, bon. Bah oui, bah ce qu'il y a, c'est que c'est pas que je m'ennuie, mais...
Bon, mais j'avais demandé de le démarrer, genre.
Pour toi, être gentil, est-ce que c'est un défaut ou une qualité?
C'est un défaut.
C'est un défaut?
Au cinéma, on nous emmène dans des contrées lointaines, merveilleuses, inquiétantes. La moto m'emmène dans des contrées lointaines, merveilleuses et inquiétantes.
Est-ce que j'ai envie de me ressembler ou pas me ressembler, quoi. Personnellement et esthétiquement.
Et politiquement?
Et politiquement.
C'est une question qui est importante pour toi, ça?
Oui.
Pendant qu'on tourne notre film, dans les rues, des millions de personnes contestent l'idée de reculer l'âge de départ à la retraite. La façon de considérer nos anciens devient un sujet central dans tout le pays. Et avec mon vieux, ça nous a fait du bien.
Au sommaire aujourd'hui, une rencontre. Une rencontre avec un réalisateur, Vincent Glen. Alors, on connaît tous son père, hein, Pierre-William Glen. Que l'on avait interviewé, directeur de la photo de Légende, qui nous a quitté malheureusement il y a peu, qui a travaillé avec tous les plus grands, Truffaut, Tavernier, Joseph Losey, enfin j'en passe, et des meilleurs, Série Noire de Corneau, c'est lui par exemple, enfin voilà, un très très grand directeur de la photo. Et mais son fils, Vincent Glen, est aussi un metteur en scène engagé, hein, depuis maintenant de nombreuses années, qui a été un peu vu aussi comme le metteur en scène de l'altermondialisme. Hein. Il a fait par exemple les films Davos, Porto Alegre et autres batailles en 2003, Pas assez de volume, Notes sur l'OMC en 2004, Indice en 2011. Il avait aussi fait Enfin des bonnes nouvelles en 2016, comédie vraiment singulière qui questionne notre monde actuel via la remise en cause des agences de notation. Voilà, donc il a fait vraiment, il a tout un travail militant et là il a fait un film plus intimiste. Sur sa relation avec son père, qui s'appelle donc « Dis pas de bêtises », et qui est un film vraiment qui est une vraie proposition de cinéma, qui est un film doté d'une forte personnalité. Puis c'est normal, puisque c'est fait par un réalisateur à forte personnalité, avec son père, qui est aussi une forte personnalité. C'est pas un documentaire où on va filmer, et ça va être plombant, un fils qui va filmer la fin de vie de son père. C'est pas ça que c'est, le film. Le film, c'est vraiment, il se rabiboche, Pierre William Glenn a eu un énorme souci de santé, il se rabiboche et ils décident de faire un film ensemble. Vont-ils y arriver ? Ce film, c'est aussi un grand voyage. Et ce film donc, va interroger leur carrière respective, leur façon de voir le monde, parce que c'est aussi tous les deux des militants. Hein, voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et donc, le film va proposer une forme que vous n'avez jamais vue ou très peu vue. Et le film est même, il est émouvant, mais il est drôle aussi. Et donc, c'est vraiment un film à voir absolument. Il est actuellement en tournée dans une série de salles en France. Donc, on vous invite à aller le voir. Et ce qu'on vous propose tout de suite, c'est donc d'écouter Vincent Glenn. Alors, Vincent Glenn qu'on interviewe au lendemain d'une projection du film qui a été réalisé en partenariat avec le service culturel de la ville de Tourotte, la salle Saint-Gobain, dont les films de la Gorgone qui coproduisent Culture Prohibée font la sélection des films qui sont diffusés dans le Ciné-Club. Et il se trouve qu'on se retrouve donc un lendemain de Ciné-Club avec Vincent Glenn pour aborder son film « 10 pas de bêtises ». Donc, tout de suite, Vincent Glenn au micro de Culture Prohibée. Bonjour Vincent Glenn.
Bonjour.
Alors Vincent Glenn, aujourd'hui, est présent en studio avec nous en raison de la sortie récente, parmi son actualité foisonnante, du documentaire « 10 pas de bêtises ». Mais avant de parler de « 10 pas de bêtises », moi je voulais un peu discuter avec Vincent de son parcours. Parce que j'ai découvert des choses en fait sur toi Vincent en regardant un peu ta bio, tout ça. Alors il y a des choses qu'on savait déjà, hein. Il y a eu l'aventure film zéro avec des documentaires sur Arte, t'as fait du montage. Moi je ne te connaissais pas non plus des qualités de musicien et en particulier t'as fait la bande originale de quelqu'un qui est de ta famille en fait, d'un film de Claude Miller, Le Sourire, et puis aussi de 23h58 de ton père Pierre William Glenn. T'as travaillé avec André Mainviel, Bernard Lubat, des gens enfin, assez incroyables. Hein. On rappelle Lubat, le Festival du Zest, un jazzman vraiment très fort, Mainviel, un peu du blues en occitan, voilà, enfin, des personnages atypiques. Est-ce que déjà tu peux nous en dire plus là-dessus ? Parce que moi je découvre, je ne te connaissais pas... Avant, alors dans le documentaire, on le voit aussi un peu, hein, que tu étais musicien, mais je ne savais pas que tu avais commis des travaux, tu as travaillé avec M aussi visiblement, enfin, tu as fait plein de choses en fait.
Alors ça, c'est parce que tu as consulté ma fiche Wikipédia. Moi, j'ai toujours été un pianiste du dimanche en fait, c'est-à-dire j'avais... Donc c'était par ailleurs... Je suis venu à la musique, mais en faisant la musique de mes propres films, et en faisant de la musique, plutôt en faisant du son. Donc ça, c'est l'itinéraire, il est plutôt là. Et puis après, il y a des rencontres. Mathieu, on s'est rencontré sur un des premiers films que j'ai fait pour Arte, qui s'appelait Les Enfants du Rail. Et à ce moment-là, il encadrait une équipe où on trouvait des gens comme Gérald Toto et un certain Faudel. C'était donc un des premiers films que j'ai fait en 95-96 pour Arte. Non, ça ne rajeunit pas, c'était il y a 30 ans. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai été amené à travailler avec. Maintenant, quand je dis travailler avec... On cite Mathieu parce qu'il est dans ce film et puis qu'on s'est côtoyé un certain temps. On s'est pas mal perdu de vue, il faut dire aussi les choses. Et après, alors concernant la bande à Bernard Lubat et André Mainviel et toute cette bande-là, alors là c'était complètement un autre volet, d'ailleurs à peu près dans les mêmes années, où on a avec la maman de mes enfants... on a suivi, enfin on a produit un film qui était consacré à Uzest, j'allais dire au festival d'Uzest, non plus que ça, à l'esprit d'Uzest. C'est un film qui s'appelait Uzest Manifeste, réalisé par un certain Thierry Bord. Et on s'est embarqué dans cette histoire, dans cette aventure de ce documentaire qui était consacré, qui s'appelait Uzest Manifeste. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai été amené à rencontrer toute cette petite bande. Et quand j'ai fait, plusieurs années plus tard, un film dont le concept était un peu zarbi, c'était de faire une sorte de comédie musicale sur l'Organisation mondiale du commerce. C'était le concept. Alors c'est tout à fait quand on dit ça comme ça, c'est complètement, on n'a pas du tout une image du film, mais il se trouve que j'ai fait une sorte d'enquête, d'investigation sur ce que signifiaient ces trois lettres OMC, Organisation Mondiale du Commerce. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quel esprit il y a derrière? Quelle décision, quelle modalité d'arbitrage économique il y a? Et dans ce contexte-là, j'ai été amené donc à proposer à, notamment à Bernard de faire une partie du son avec à l'époque un slammer qui s'appelle Lior. Et on a eu une session, il y a eu une session, donc ce qui fait que à ce moment-là, Bernard a contribué, participé à la bande originale de ce film. Et un an et quelques auparavant, il y avait eu la même invitation que j'avais faite à André Mainviel, qui avait donc contribué aussi à la bande-son du film que j'avais fait avant, qui s'appelle Davos, Porto Alegre et autres batailles. Voilà, et c'est comme ça que j'ai été amené donc à fréquenter et d'autre part à pouvoir inviter ces gens, ces personnes, ces musiciens assez extraordinaires à participer à la bande-son de mes films. Voilà, donc c'est pour ça quand on parle de collaboration, c'est pas comme si j'avais bossé avec eux pendant des années, c'était des interventions ponctuelles, formidables d'ailleurs, et maintenant qu'ils commencent à dater un peu, ça fait longtemps.
Bah, après, là, tu viens de le dire, bon, moi je te connaissais surtout, avant de voir le film dont on va parler aujourd'hui, qui est un film plus intimiste, mais je te connaissais surtout comme quelqu'un d'engagé à travers ton travail. Tu as parlé là de tes travaux, pas assez de volume, Davos, Porto Alegre et autres batailles. Je me rappelle Indice aussi. Enfin voilà, où tu as même tu l'as fait par écrit aussi. Tu as travaillé sur la question de la dette. Là, tu parlais de l'OMC, hein, le tour de la dette en 80 minutes. Voilà, on marche sur la dette. Enfin, tu as fait plein de choses comme ça. C'est même le sujet du film que tu abordais à l'instant, enfin, Des Bonnes Nouvelles aussi, qui est un film de fiction, mais très singulier, mais qui est encore et toujours sur ce même sujet. Et tant mieux, parce que, comme on le dit chez les militants, il vaut mieux se répéter que se contredire. Donc, ton parcours, à toi, fait que tu es un citoyen engagé, t'es un, comment dire, tu travailles aussi dans l'associatif, alors on peut parler aussi de l'association de l'autre côté, par exemple. Et toi vraiment, comment tu conçois le cinéma, comment tu conçois ton... Parce que c'est un cinéma citoyen, ce que tu fais. Enfin, ce terme peut être un peu galvaudé, mais je veux dire, c'est un cinéma militant engagé. C'est un mot qui fait peur des fois, mais là, je pense qu'on peut le dire quand même. Faut pas... Même si tu proposes toujours des propositions de cinéma avec des mises en scène particulières, tout ça, tu te contentes pas d'asséner des messages. Mais ça, on en reparlera après.
Moi, je suis venu... comment dire... Le moment où j'ai commencé à faire des films, c'est contemporain de quelque chose qu'on a un peu oublié maintenant, mais qui est la première guerre du Golfe, qui était en 91. Et l'envahissement du Koweït par un certain Saddam Hussein avait provoqué une réaction américaine, et à l'époque d'ailleurs, qui avait embarqué, y compris la France. Et ça a été ensuite une période de la première guerre du Golfe de 1991 à la seconde en 2003. Ça a été un massacre absolument terrifiant, puisque plus d'un million d'Irakiens ont laissé la vie, hommes, femmes et enfants. Et donc, c'est un moment où, moi, en 91, je sortais fraîchement, on va dire, de l'école aux Lumières. Et je commençais à me dire que ça serait intéressant d'utiliser, on va dire, de faire que le cinéma soit un outil de connaissance, que ce soit un outil pour moi d'abord d'apprendre des choses. Et donc c'était une première intuition qui était de faire des films qui étaient plutôt du côté du documentaire. Et là-dessus, encore une fois, le contexte international, le fait qu'on est en 91, on est donc un an avant le sommet de Rio de Janeiro, sur l'environnement et le développement à l'époque, qui commence à établir un certain nombre de réalités planétaires. On ne parle pas encore d'érosion de la biodiversité, mais déjà, il y a quand même cet écart, ce grand écart entre la partie la plus riche de l'humanité et la partie la plus pauvre. Et le fait que tout ça est porteur de risques de risques mondiaux, de risques planétaires, avec déjà des anticipations du réchauffement climatique, etc., etc. Donc, il y avait un enjeu de conscientisation. Déjà, moi-même, découvrant, puisque c'est quand même une phase où je fais un peu mon apprentissage politique, mon apprentissage militant, et ce sont des années où assez logiquement, qu'est-ce qui m'intéresse et qu'est-ce que j'ai envie de faire connaître, c'est tout simplement ces questions-là qui font que je me mets à faire un cinéma qui va petit à petit être estampillé, altermondialiste, engagé, etc., etc. Donc voilà, donc c'est effectivement une façon de... Parmi les références, il y en a une que je cite souvent, c'est la phrase de Bertolt Brecht qui dit l'art ne doit pas être un miroir pour refléter le réel, mais un marteau pour le façonner, pour le mettre en forme. Et voilà, dans cette période-là, il y a eu un certain nombre de figures. Alors, ça pouvait aller de Robert Kramer à Michael Moore, de Chris Marker à Luc Moulet. Voilà, qui étaient des figures comme Oli. Et toute une liste ensuite, des gens comme Eyal Sivan, qui ont été des influences, pas des influenceurs, mais des influences fortes sur à quoi ça peut servir et quel sens donner au geste de faire un film. Et donc, voilà, moi, du coup, ça m'a assez rapidement donné une orientation qui était que apprendre, c'est apprendre du monde et essayer de retransmettre ensuite des choses qu'on a essayé d'approcher, de connaître.
On est toujours avec Vincent Glen, hein, donc réalisateur du film Dis pas de bêtises, du film documentaire Dis pas de bêtises. Et à l'instant, Vincent, tu nous expliquais voilà, ton parcours un peu, ton engagement. Et là, Dis pas de bêtises, c'est un film documentaire, on va revenir en détail dessus, qui raconte la relation que tu as avec ton père et qui présente un peu ton père au public, parce qu'effectivement, c'est une légende du cinéma, mais bon... je veux dire, à l'instar de Vittorio Storaro ou Darius Conji, ben voilà, les gens ne savent pas qui c'est. Voilà. Donc, et lui, donc, Pierre William Glenn, était aussi fait partie de cette galaxie des très grands directeurs de la photo, des très grands chefs opérateurs. Et d'ailleurs, je découvre, en fait, en regardant ce documentaire, avant qu'on dise un peu plus sur Pierre William Glenn, que nos auditrices et auditeurs connaissent bien, puisqu'on l'avait rencontré, et on a rediffusé l'émission, malheureusement, lors de son décès. Et j'ai découvert que lui aussi était militant, en fait. Militant, passé par le trotskisme, et qui donne lieu d'ailleurs à un moment, un échange assez génial dans les images d'archives que tu mets dans le film. Tu sais, je suis trotskiste et je joue au polo. Enfin, je suis communiste et je joue au polo. C'est assez drôle, voilà. Et est-ce que tu peux, toi, nous en dire plus avant qu'on rentre vraiment dans le détail du film, si tu devais présenter rapidement ton père, donc qui était cet homme qui était militant, qui était directeur de la photo, qui était cinéaste parce qu'il a réalisé aussi des films. Et nous dire rapidement qui il était, parce que toi-même qui travailles dans l'image, dans le cinéma, ça ne doit pas être simple de grandir aussi avec un tel père qui prend de la place, quoi. Parce qu'en plus, dans le film, là, il est fatigué, mais moi, je l'ai rencontré quand il était en pleine forme, physiquement très impressionnant, voilà, très charismatique. Ça n'a pas dû être de la tarte tous les jours, mais au final... Bon, vous avez réussi à faire un film ensemble, voilà.
C'est difficile pour moi d'en parler rapidement, puisque je viens de faire un film que j'ai mis 5 ans à faire avec lui, pour parler de cette relation bizarre qu'on avait, qui était une relation forte, ambivalente, avec voilà, quelque chose qui est du côté du rap. Du rapport amoureux au sens d'une appréciation mutuelle de où il a été là pour moi, j'ai été là pour lui, et donc il y a eu des formes de liens forts et avec pour le coup de vraies ressemblances, des vraies transmissions de sa part vers moi. L'inverse peut être vrai aussi, c'est-à-dire qu'on s'est co-influencé, ça c'est assez certain. Après, voilà, c'est compliqué de dire en quelques phrases, de parler de cette relation. Il est parti quand il avait 80 ans, moi j'en ai 58 aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, parce que dans le film, il parle beaucoup de finalement... Je crois que dans le film, ce qui parcourt tout le long, tout le long du film, c'est justement une ce qu'il y a dans le film noir, dans un certain film noir, notamment français, avec des notamment qui dans le film il y a des extraits des films de Tavernier ou de Truffaut à sa façon, de Corneau, le Corneau de Série Noire, donc le Tavernier de Coup de Torchon, L'Argent de Poche de Truffaut, c'est qu'il y a une noirceur. Alors dans le cas de Coup de Torchon, c'est une noirceur absolue, dans Série Noire, presque, j'allais dire, pire. Et en même temps, il y a quelque chose qui transite dans le film, c'est l'humour, et c'est le fait qu'on dit l'humour, c'est la politesse du désespoir, et on sent... qu'à travers une peinture qui pourrait avoir une peinture de la société qui peut avoir l'air dans Série Noire comme dans Coup de Torchon, avec des personnages qui sont veules, qui sont lâches, qui sont terribles, et il y a quelque chose qui les sauve un peu, enfin qui sauve un peu d'une misanthropie qui pourrait transparaître dans le film, qui est justement cet humour, cet esprit, ce comme si disait bon, ils font ce qu'ils peuvent, ces personnages-là, et donc voilà, c'est pas des, ils sont pas jugés, ils apparaissent dans leur sottise, dans leur limite, dans leurs impuissances, mais c'est pas, il y a pas de misanthropie, voilà, encore une fois, et il y a pas d'héroïsme non plus, mais il y a pas de misanthropie, et voilà, je pense que chez mon père, il y avait quelque chose... Je parle dans le film de ce qui fait que on a eu des grosses différences, des différends aussi, y compris politiquement. Lui, il était, tu l'as dit, issu du courant de l'OCI. L'OCI, c'est donc les trotskistes assez... les durs, on va dire. Et s'ils étaient... alors, c'est pareil, c'est un courant qui est tellement large que c'est difficile de dire en quelques mots. Mais il y avait, sans trop simplifier, il y a cette idée au sein des différents courants trotskistes que la révolution a été trahie par ceux qui l'ont pris en otage, ceux qui l'ont dévoyé comme des personnages comme Staline. Certains disent Lénine aussi, mais enfin, particulièrement évident du côté de Staline et de tous ses avatars des pays de l'Est, ensuite, ce qu'on a appelé les pays de l'Est. Et donc, mais ça ne retire pas la pertinence de la grille d'analyse marxiste et ni la pertinence de même du projet communiste. Moi, j'ai été élevé par un père qui disait c'est quoi le communisme ? Ben c'est de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. C'est-à-dire cette idée que en régime communiste, on abolit l'État parce que chacun est suffisamment autodiscipliné, chacun contribue avec son savoir-faire, ses talents, etc., et recueille en fonction de ce dont il a besoin. Si on mesure 2 mètres et on pèse 120 kilos, on ne mange pas pareil que quelqu'un qui fait 1 mètre 50 et qui pèse 35 kilos, ou 40, ou 50. Et c'est pas grave dans une société où chacun prend la mesure de ce qu'il peut faire et de ce à quoi il peut contribuer et ce qu'il estime légitime de prendre pour sa vie et sa survie. Donc, moi, j'ai grandi avec l'idée que l'utopie communiste était quelque chose qui n'était pas malsain en soi. C'est la manière dont les humains l'ont globalement, en tout cas historiquement, appliqué dans une énorme partie de... Voilà, que ce soit en Chine, que ce soit... Alors, parlons même pas des cas du Cambodge, où... en tout cas, il y a eu des dérives autoritaires qui ont fait qu'on on est arrivé là où on est arrivé. Il se trouve que, même dans sa version trotskiste, moi, en tout cas, dans ma confrontation avec mon père, j'ai plutôt éprouvé le besoin d'aller du côté des libertaires et des anarchistes, parce que je trouvais qu'il y avait cette forme de raideur idéologique. On voit dans le film la confrontation, notamment avec son beau-frère Claude Miller, qui, quand il réalise La meilleure façon de marcher, est un film métaphorique d'une certaine raideur idéologique qui dit voilà ce qu'il faut faire, vous devez penser comme ça, vous devez faire l'amour comme ça, vous devez voilà, la meilleure façon de marcher, c'est ça, c'est cette métaphore de ce que puisque j'ai raison, tu dois m'écouter. Et tu dois faire comme je pense que c'est bien, parce que je sais ce qui est juste pour nous tous, etc. Donc, des confrontations ont pu avoir lieu de ce côté-là, sur... voilà, c'est pas seulement une histoire de... Alors c'est évidemment... ce qui est en jeu, c'est la question de l'autoritarisme, la question de être autoritaire ou avoir de l'autorité, c'est pas du tout la même chose. Mais ça parle aussi de ce que j'ai aimé partager jusqu'au bout avec mon père, et ce que lui a partagé avec moi, et ce qu'il m'a transmis, c'est-à-dire quand même de considérer que l'utopie est quelque chose d'absolument important, absolument essentiel dans la vie humaine, et peut-être même moi plus que jamais, aujourd'hui, dans cette période glauquissime... où de nouveau on reparle de militariser, où de nouveau on parle de la guerre s'étend et a tendance à se banaliser comme quelque chose de normal. Bon, pour moi, c'est l'horreur absolue. C'est l'ennemi à abattre, c'est la guerre elle-même et c'est l'esprit de guerre. C'est l'esprit de la militarisation, c'est le fait de dépenser des sommes absolument astronomiques dans de l'armement, on les met dans les écoles. Et ça, c'est terrifiant. Ça n'empêche que... voilà, moi, mes références, c'est le Conseil national de la résistance qui, dominée par le nazisme, dans une France occupée par les nazis, pense la sécurité sociale. Jettent les bases de l'architecture de la sécurité sociale et vont aller vers la concrétisation, la naissance de la sécurité sociale. Et donc, alors que sur le papier, on n'aurait pas donné cher de la peau de ces gens-là, qui étaient une super minorité, une hyper minorité à l'époque. Et pourtant, pour le coup, voilà, ils avaient suffisamment de conviction. Alors, c'était pas, on est sûr d'avoir raison, mais quand même. En tout cas, face au nazisme, il y avait quand même l'intuition très, très puissante que ce n'était pas possible que l'humanité aille vers ça. Et donc, il y avait des combats, et il y a toujours des combats, contre les formes actuelles du fascisme, du nazisme. Alors, et donc, je continue de penser, parce que là, on s'est mangé maintenant, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plus de 70 ans, 80 ans de capitalisme qui est devenu un hypercapitalisme avec une multiplication des formes autoritaires du capitalisme. Alors, quelle est la transposition utopique aujourd'hui ? Quelles sont les utopies, justement ? C'est pour ça que ce film, finalement, c'est un film qui est en partie consacré à ce qu'on avait en partage, c'est-à-dire l'utopie. Et quand je dis utopie, c'est quoi ? C'est toutes ces choses qui n'ont pas de conversion directe en monnaie, ou qui n'ont pas de conversion, en tout cas en PIB, et qui pourtant font que on ne sont pas épuisés des enjeux de sens, et que il n'y a aucun film qui existe s'il n'y a pas un truc insaisissable qui s'appelle le rêve, un autre qui s'appelle le désir, un autre qui s'appelle l'intuition. Il n'y a pas de vie qui mérite vraiment d'être vécue s'il n'y a pas des choses aussi inqualifiables que la tendresse, la gentillesse, l'écoute, le fait d'être présent au moment où on est en... ou le fait d'avoir quelqu'un de cher présent à vos côtés quand on est en galère ou quand on est... Donc c'est tout ce qui fait... ce matin, je lisais un papier sur l'hôpital public. Des gens qui bossent comme des dingues dans des conditions démentes, mais qui font que y a le droit à la santé n'est pas un petit truc. C'est quelque chose qui, tous les jours, est répété comme une exigence humaine. Voilà. Et donc, c'est ces toutes petites choses ineffables qui produisent du sens, qui produisent ce qu'on peut vivre quand on arrive à vivre de... la fraternité, quand on arrive à vivre la liberté, des choses qui n'ont pas de prix et du coup qui ont une valeur. Ça, c'est la phrase d'Oscar Wilde qui dit, finalement, il dit dans l'autre sens, il dit un cynique, c'est quelqu'un qui connaît le prix de chaque chose et la valeur de rien.
Les cris sourds du pays qu'on enchaîne.
écoutez Vincent Glenn, réalisateur de 10 pas de bêtises, au micro de Culture Prohibée.
Alors, Vincent Glenn, donc, tu as abordé à l'instant le... Comment dire, on est parti de ton père pour arriver vers énormément de sujets. J'en profite pour souligner que c'est les 80 ans de la sécurité sociale là, et que c'est l'occasion de rendre hommage à Ambroise Croizat quand même. Et donc dans ce film, là, là, dis pas de bêtises, pour enchaîner sur ce que tu viens de dire... vous vous retrouvez avec les manifs contre la réforme des retraites. On sent que ton père, il aime ça, quoi. Il aime en découdre, il aime ça lui fait plaisir. Et il y a un truc qui est dit dans le film, qui est expliqué. On se demande même, en fait, à un moment, si c'est pas un homme qui aime vivre le conflit, quoi. Qui est dans le conflit, des gamins, parce que comme il est métisse, parce qu'on parle de ton père, mais dans le film, on découvre. Tes ancêtres, c'est quand même une sacrée famille. C'est quand même pas des gens lambda. Et enfin, je sais pas ce que ça veut dire des gens lambda, mais en tout cas, c'est un parcours assez singulier. Voilà. Et là, on voit que lui, dès tout petit, c'est un bagarreur, en fait. C'est un type qui s'en laisse pas compter, quoi.
Bah oui, parce que comme sa mère était elle-même métisse, donc son grand-père était... donc mon arrière-grand-père était noir américain. Et donc, les enfants dans la cour, ils voyaient bien que sa mère était mulâtre, comme on disait à l'époque. Et donc, ils se faisaient traiter de négro dans la cour. Et donc, évidemment, dans les cours de collège aujourd'hui, ça peut être un jeu entre des jeunes racisés, de se dire « Ah, négro, ok ». Mais à l'époque, c'était plutôt de l'ordre de l'insulte, etc. Donc forcément, je pense que ça a joué dans son caractère d'en découdre physiquement. Ouais, t'es karatéka, motard. Et ça aussi, c'est intéressant parce que c'est intéressant cette histoire de... Quand on parle de lutte, par exemple, la lutte... la lutte, le combat, la lutte des classes. Il y a une dimension d'agressivité. Je dis ça parce que ce matin encore, dans mon petit, qu'on appelle ça, une petite revue de presse, là, je suis tombé sur un extrait de Hollande, à qui on demande ce qu'il pense de Mélenchon. Et il y répond en substance... le problème, enfin, du truc avec oui, on a été ensemble, on a été du même parti pendant longtemps, etc. Simplement, Mélenchon, il est toujours dans l'agressivité. Et il dit voilà, moi je suis pas comme ça. Bon, fin de la citation. Mais c'est pour dire que ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que tu disais sur mon père, c'était quelqu'un. Il y a la blague de Coluche, je sais pas si tu te souviens, dans le sketch, il y a un sketch où il dit, je sais plus comment il s'appelle le personnage, mais il dit, lui, quand il t'attaque pas, il cherche qu'à se défendre. Et ça parle de cette agressivité qui peut y avoir, qui est légitime, parce que à gauche, quand t'es pauvre... Quand t'es pauvre tout court, pas forcément que t'es de gauche, tu te dis, c'est pas normal que moi je sois pauvre et qu'il y ait des gens riches, voire très riches. Donc, il y a une conversion quand on est dans la lutte des classes pour récupérer les outils de production, pour récupérer de la dignité, pour acquérir simplement de quoi bouffer. Il y a la tentation de dire, bah, attendez, c'est pas normal que vous ayez autant et que moi j'ai si peu. Donc, naît forcément une forme d'agressivité qui dit c'est pas juste, donc je vais pas... Je sais plus, cette phrase très très marrante aussi que j'ai entendue ces derniers jours, c'était si vous nous empêchez de rêver, on vous empêchera de dormir. Il y a quelque chose qui est... c'est une phrase qui était sortie dans les années 90, je crois, ou 2000. Donc mon père était quelqu'un qui effectivement aimait le conflit. Alors, jusqu'à un endroit où ça peut devenir pathologique, et ça, c'est les limites que je pourrais avoir avec certains camarades de l'AFI, pour pas les nommer. Parce que j'adhère, moi, à 98% du programme de ce qu'il faudrait faire si un État était un peu plus redistributeur, était plus sérieusement écologique, était s'occuper vraiment des précaires, mettait des limites à l'ultra-richesse, etc. Ça serait un pouvoir relativement, sans doute, dû, en tout cas établissant des limites. Et moi, jusque-là, je partage. Après, je pense que, par rapport à ce que tu disais sur ce qu'on entend, ce qu'on ressent dans le film, y a un niveau de conflictualité qui est presque... je ne sais pas s'il est basiquement humain. Qu'est-ce qui fait qu'on prend du plaisir à, ou, en tout cas moi j'en prends pas forcément, mais à avoir des matchs de boxe, avoir des matchs de MMA, où tous les coups sont permis. Qu'est-ce qui fait que toutes les représentations sportives, c'est de l'agressivité, c'est de la testostérone pour beaucoup. Maintenant, les femmes s'y mettent, j'allais dire, il y a du football féminin, il y a des sports de combat féminins, etc. Mais qu'est-ce qui fait que la compétition est à ce point le cœur et que si tu veux gagner une compétition, tu as intérêt à être agressif. Parce que si tu ne gagnes pas un grand prix moto un championnat du monde de moto, si tu n'as pas une agressivité de dingue pour doubler le gars à 240 dans le virage et gagner une place ou deux ou trois. Donc effectivement, il y a ce goût d'une conflictualité qui faisait une des grosses différences que j'ai eu avec mon père. C'est-à-dire que moi, je sais que moi-même, j'ai une forme d'agressivité, mais je comprends aussi en quoi elle peut avoir une dimension pathologique. Et du coup, rejoindre, je crois, ce qui transpire un peu dans ce film, ce qui est évoqué tout le long, c'est-à-dire quel rapport on a à la peur, dans quelle mesure on a besoin d'être craint, dans quelle mesure le fait d'avoir besoin d'être craint est un palliatif à la peur de ne pas être aimé.
Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais...
Écoutez Vincent Glen, réalisateur de 10 pas de bêtises, au micro de Culture Prohibée.
C'est dans la rue que ça se passe quand on change d'air.
T'en dis pas de bêtises, effectivement, Vincent, il y a tout ça. Hein, et moi, il y a aussi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début, mais il y a aussi un énorme travail de mise en scène. Tout à l'heure, tu as parlé de 5 années. Il y a 2 questions que je voulais te poser par rapport à comment le film s'est construit. Parce que le film, en fait, c'est aussi un film sur le cinéma. C'est-à-dire que c'est un film sur comment on fait un film. C'est-à-dire, on se dit, avec mon père, on va faire un film. On va faire un voyage même. Voilà. Parce qu'un film, c'est un voyage. Hein, Bazin parlait de fenêtres ouvertes sur le monde. Voilà. C'est un voyage. Et il y a ça dans le film. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment l'ambition pour toi. Quand tu attaques l'écriture du film, c'est de dire je vais faire un film. Ok, on va parler de mon père. Ok, on va parler de ma relation avec mon père. Mais je vais aussi faire un film sur le cinéma.
Non. Non, non. Non, j'ai pas voulu faire un film. D'abord, c'est. Plus ça avance et plus l'expression faire un film sur ceci ou sur cela me paraît avoir des limites, parce qu'on fait jamais un film sur un film. C'est justement, c'est pas une thèse, c'est pas c'est de l'ordre du récit. Donc c'est un, il était une fois, c'est un ensemble de désirs, c'est des intuitions, c'est des choix. C'est hiérarchiser dans le réel ce qui paraît important et moins important, c'est faire résonner des choses, c'est recueillir des propos, c'est bon, mais c'est pas forcément faire un film sur quelque chose. Et donc autant la présence du cinéma, j'espère, comme quand je fais un film, j'espère que c'est un film que je fais c'est donc autant que je, en tout cas je viens de cette j'ai grandi dans un milieu de cinéma. Je pense qu'en bonne partie ma vie a consisté à m'en échapper de ce monde du cinéma. Il y a un monde, il y a le monde du cinéma qui d'ailleurs ne veut rien dire. C'est comme quand on dit les Belges ou les Hongrois ou les Juifs ou les Français, non, il n'y a pas. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas le monde du cinéma. Il y a 50 mondes du cinéma. Et dans ces 50 mondes du cinéma, il y a un sous-monde qui est le monde du documentaire, qui lui-même est subdivisé en 50 mondes du cinéma documentaire. Donc, tout ça pour dire que le cinéma, pour moi, c'est une façon d'exprimer quelque chose. C'est une façon d'exister. C'est une façon de dire « Ouh, je suis là !» C'est une façon de décrire, de témoigner de ce qui paraît important ou de ce qui paraît absurde, de ce qui est indigne, de ce qui révolte, etc. Donc, la présence du cinéma, j'espère que c'est un film de cinéma. Et simplement, depuis que je suis gamin, pour le coup, j'ai le cinéma, c'est à la fois un mode d'expression, une industrie, un langage. Donc, ça, pour le coup, c'est des choses que j'ai pu recevoir de mon père assez tôt. C'est-à-dire qu'il y a... Il n'y a pas d'art sans technique. Une technique qui ne serait pas au service d'un art, ça n'a pas de sens. Et puis, donc le cinéma, c'est un vecteur, c'est un support. C'est une des modalités, encore une fois, d'expression, comme au même titre que la sculpture, la peinture, la littérature, etc. La danse. Et par rapport à ta question sur le fait d'avoir... Est-ce qu'il y a une réflexion sur le cinéma, je dirais... je ne pense pas tant que ça dans le film, mais il y a des traces d'une... Ce qui, moi, m'importe, en tout cas, ce que j'observe, ce à quoi j'ai été sensible, c'est la mutation de notre rapport à l'image. De notre façon de produire des images. Et là, le personnage de mon père est une incarnation d'un artisan dont le métier était de créer des images avec une certaine exigence, comme un menuisier a une certaine exigence pour faire des meubles, comme un pâtissier peut avoir une exigence lorsqu'il fait des gâteaux, ou des, voilà, et comme tout ce qui est du côté de l'artisanat ou de l'art représente une exigence. Et donc mon père était quelqu'un, d'où le titre, hein, dis pas de bêtises, c'est que à un certain stade, on s'interdit le droit à l'erreur. Un grand cuisinier ne s'autorise pas de rater une sauce. Il y a un niveau de maestria, de virtuosité qui fait qu'on s'interdit l'erreur. À un certain niveau, j'entends bien. Alors que tout ce qui fait qu'on devient probablement un artisan de haut niveau, c'est parce qu'on a fait 250 fois les erreurs, voire 2500 fois les erreurs, jusqu'au moment où on a acquis une maîtrise d'ouvrage qui fait qu'on maîtrise. Et donc, ce qui se passe dans ce film, c'est qu'il y a des traces de ce que, lorsque moi j'ai commencé à faire des films, on va dire début des années 90, il y a donc 35 ans, l'image était encore rare. La production d'images, la production cinématographique, la production vidéographique était encore assez rare. Tout simplement parce que ça coûtait très cher et que l'accessibilité aux outils de fabrique des images était pas facile. Et donc, ça coûtait très cher. Ça coûtait cher de fabriquer ça coûtait cher de louer des caméras, ça coûtait cher de. Les supports coûtaient très cher. Le ciné, le 35 mm ou le 16 mm, ça coûtait très cher à développer, à acheter, à développer, à tirer encore plus. Et le montage était encore un autre niveau. Pareil, c'était très, très difficile de faire. Donc les images restaient. On restait avec des images assez rares dans la société. Même si c'était déjà incomparablement moins rare que c'était 100 ans auparavant et que c'était 500 ans auparavant, entre le 8 et le 12e siècle, lorsque c'était la guerre entre les iconoclastes et les iconodules, où il y avait une véritable. Là, à ce moment-là, l'image était très, très, très rare. Aujourd'hui, elle est devenue absolument banale. On est devenu des iconovores. Il y a une profusion, il y a un flot, il y a un flux maintenant d'images. Ce sont des torrents d'images. Et donc, c'est plus du tout la même façon, sauf exception, de les produire. Et c'est plus du tout la même façon de les recevoir. Et donc, je crois que le film, il parle de ça. Il parle de ça à travers la figure, à travers le métier, ce métier de chef opérateur, de directeur de la photo, de longs métrages, de cinéma, de fiction dans les années 70, 80, 60, 70, 80, 90. Les 80 longs métrages, un peu plus de 80 longs métrages dont mon père a signé la lumière, sont des manifestations d'une certaine culture de l'image qui aujourd'hui et ne peut plus être la même. Il y a eu un bouleversement. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas. On en parlait un peu hier, mais je ne dis pas qu'il ne reste pas la possibilité d'être aussi exigeant qu'il l'était à ce moment-là. Mais simplement, je parlais de l'origine du mot image, imago. Il y a cette ambition un peu folle quand on l'imago, c'est le masque de cire, c'est le masque mortuaire qui donc va immortaliser quelque part le défunt et va faire qu'il va traverser les siècles, puis il va donner, il y aura la peinture, il y aura des icônes, il y aura mais où il y a cette idée, c'est pas passer l'histoire de l'image en quelques dizaines de secondes, mais il y a cette idée quand même d'une la tentation de l'immortalité et de fait d'immortaliser à travers ce geste de produire une image, que ce soit une peinture de Rembrandt ou la Joconde, ou c'est cette idée, voilà, la personne que j'ai en face de moi, elle est éphémère, mais si je produis son image, je vais la rendre éternelle d'une certaine façon. Et mon père était assez habité par cette idée-là. Et aujourd'hui, le caractère très, très éphémère des images, maintenant, des photos que l'on prend, on a chacun 5, 7, 10, 15, 30 000 photos dans son smartphone, qui donc sont des images aussitôt capturées, aussitôt, sinon détruites, oubliées, voilà, aussi sûrement qu'on ne compte pas les vagues de l'océan, que l'on... C'est un flot, quoi, voilà. Et donc, ça n'empêche pas, par exemple, que ce film, qui est un film de cinéma, j'espère, soit une, aussi porté par la tentation de dire, je pense que ce film pourra être vu dans une dizaine d'années, aura sans doute, sera daté, mais je ne suis pas sûr qu'il aura tant vieilli. C'est-à-dire... Il sera daté d'une certaine époque, avec un certain rythme, avec... on dira, mais non, on ne fait plus des films comme ça, maintenant, etc. Mais je crois que, enfin, il y a... Voilà. Et puis, il y a aussi ce truc très, très, très basique, hein, de... Je m'en suis rendu compte, d'ailleurs, c'est ça qui est chouette, quand on fait des films documentaires, c'est qu'on se rend compte de choses bien après, d'avoir... on a l'intuition, et puis, mais on n'est pas sûr, et puis on se rend compte de certaines choses après. Et là, en l'occurrence... basiquement, depuis que le film est sorti le 26 novembre, on est en février, je me rends compte que c'est une façon de garder mon père avec moi.
Ce sera le mot de la fin, Vincent, puisqu'on arrive au bout de l'émission. Voilà, moi je te remercie en tout cas pour ce film, parce que c'est un film qui est une... Oui, c'est une vraie proposition de cinéma. C'est pour ça qu'il a été programmé d'ailleurs hier dans le Ciné-Club, dont j'assure la programmation, et tu faisais référence à cette soirée, c'est ce débat qui a eu lieu avec le public. On espère que Dis pas de bêtises sortira sur support physique, puisque moi je suis cinéphile et j'aime bien revoir les films que j'aime, mais pas les télécharger. Donc voilà, allez, on te remercie, et tu es le bienvenu, Vincent, pour tes prochains films. Dans notre émission Culture Prohibée. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier et dit La Gorgone. Une émission réalisée avec le soutien technique de Damien Demet, dit La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Mernien à l'architecture sonore de l'ensemble. Salut les gens, à la prochaine.